Virginie Langeroc.
On démarre avec du football. C'est le dernier match de l'année pour l'équipe de Suisse. Elle joue en ce moment même à Tenerife aux Canaries face à l'Espagne. Un match de Ligue des Nations sans enjeu puisque la Suisse, quoi qu'il arrive, est condamnée à la dernière place de son groupe. Joël Robert, vous êtes sur place. Est-ce que la Suisse tient le choc face aux champions d'Europe ?
Non, elle ne tient pas le choc, c'est compliqué. Le champion d'Europe domine, l'Espagne mène logiquement 1-0 en but tombé en première mi-temps par l'intermédiaire de Pino. Il y a eu d'ailleurs un pénalty tiré par Rodri que le gardien suisse a repoussé. Une première reprise de Williams et puis Pino dans l'enchaînement a pu marquer le 1-0. Un score logique, une ouverture à la marque méritée. L'équipe d'Espagne, sans être transcendante ce soir, est quand même nettement supérieure à l'équipe de Suisse qui a beaucoup de peine, qui ne se crée que de rares occasions, qui n'a pas des joueurs, en tout cas certains d'entre eux, de niveau international. Et qui ce soir est nettement dominé par l'équipe d'Espagne. 1-0, il reste un petit peu plus d'une demi-heure dans cette partie.
Joël Robert en direct de Tenerife. Et la fin de cette rencontre est à suivre après ce flash dans Sport Première sur la Première. C'était l'objectif central de la présidence du G20 pour le président brésilien Lula. L'Alliance globale contre la faim et la pauvreté a été lancée aujourd'hui avec 82 pays signataires. Face aux dirigeants des plus puissantes économies de la planète, celle du G20 donc, réunie pour ce sommet à Rio de Janeiro, le président brésilien a lancé un projet ambitieux, sortir de la faim 1,5 million de personnes d'ici 2030. Au même moment se tient un autre sommet, celui de la COP sur le climat. Il se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. Arrêtons le théâtre et passons aux choses sérieuses, a lancé aujourd'hui Simon Steele, le secrétaire de l'ONU Climat, aujourd'hui, alors que la COP prend fin dans 4 jours. Les ministres des pays membres de l'accord de Paris ont jusqu'à vendredi pour trouver comment financer 1000 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux effets du changement climatique. En Espagne, la ville de Malaga tente de lutter contre le surtourisme. Cette ville d'Andalousie a décidé aujourd'hui qu'aucun nouvel appartement de vacances ne serait autorisé dans la plupart des quartiers de la ville. La ville de 600 000 habitants compte plus de 11 000 meublés touristiques, dont 60% enregistrés sur des plateformes de location en ligne. D'autres villes espagnoles ont déjà pris des mesures pour limiter ce type de location, accusées de priver la population locale de logements abordables. Ainsi, le maire de Barcelone avait annoncé en juin son intention de mettre un terme complet à la location d'appartements touristiques d'ici fin 2028. La météo, le ciel se couvre cette nuit avec des pluies possibles. Demain, des pluies qui seront plus fréquentes et plus marquées en fin de journée. Il y aura du vent fort à tempêteux. Il pourrait neiger entre 1700 et 1400 mètres. Température en pleine, pas plus de 10 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, célébrons la musique classique. La Schubertiade RTS Espace 2 essaimera ses plus belles notes à Sion les 6 et 7 septembre 2025. Une centaine de concerts et divers registres musicaux pour un public passionné de musique. Vous êtes soliste, membre d'un ensemble instrumental ou d'un chœur et souhaitez participer à l'affiche de cette 22e édition ? Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 1er décembre sur le site schubertiade.ch.
Les références, Julian Sykes.
Un jeu tendre, sensuel, celui du pianiste Bertrand Chamaillou dans la musique du compositeur russe Sergueï Liapounov. Une berceuse de Liapounov jouée avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Bertrand Chamaillou, un pianiste français dans la quarantaine, né à Toulouse. Toute cette semaine, on va retracer sa carrière et plonger dans sa discographie. Bienvenue dans les références. Bertrand Chamaillou dans cette très jolie pièce de Sergueï Liapounov, La berceuse tirée des 12 études d'exécution transcendante opus 11. Ce sont des pièces d'après le modèle de Franz Liszt, puisque Liszt a composé lui-même un recueil de pièces très difficiles intitulé 12 études d'exécution transcendante. Bertrand Chamaillou, un pianiste de la couleur, de la sensualité, né à Toulouse en 1981. Un pianiste par défaut, en quelque sorte, car lorsqu'il était jeune, il voulait devenir compositeur. Il passait beaucoup de temps à improviser au piano, il déchiffrait des kyrielles de partitions. Il parle d'ailleurs souvent du graphisme des partitions. Prenons les Jeux d'eau de Ravel. C'est une pièce qu'il a découverte d'abord par les yeux. En ouvrant la partition et en voyant les doubles croches et triples croches en cascade. Jeu d'eau qu'on écoute ici par Bertrand Chamaillou lors d'un concert public en 2016 à Vevey.
Thank you.
Jeu d'eau de Maurice Ravel par le pianiste toulousain Bertrand Chamaillou lors d'un récital en octobre 2016 à la salle del Castillo de Vevey. Ce jour-là, Chamaillou avait joué l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, un concert en trois parties assorti de deux entractes, et c'est typique de Bertrand Chamaillou de se lancer dans ce genre de marathon musical. Il aime les voyages au long cours, les grandes fresques, les grandes traversées, comme pour les trois années de pèlerinage de Franz Liszt. Il a les capacités de jouer ça en une seule soirée. Et d'ailleurs, Chamaillou a aussi joué beaucoup de musique du XXe siècle, des pièces très difficiles, notamment les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Un extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. C'est une fresque gigantesque avec ici une musique très percussive pour ce passage intitulé « La parole toute puissante ». Alors commençons par le début de la vie de Bertrand Chamaillou qui nous retrace son enfance et ses premières influences.
Alors je ne suis pas né dans une famille de musiciens, je suis né à Toulouse, mais avec des parents qui quand même étaient très sensibles à l'art, une mère qui était peintre amateur, et très amatrice d'art contemporain notamment, et un papa qui avait un tout petit peu joué de piano dans sa jeunesse, mais enfin vraiment des balbutiements, mais qui par contre aimait beaucoup la musique classique en particulier, qui avait pas mal de vinyles, et notamment de pianistes. Donc il y avait quand même ce qu'on appelle un atavisme à la maison, voilà, mais pas de musicien ni professionnel, ni vraiment amateur, un oncle qui jouait quand même un peu de piano à un certain niveau d'amateur.
Alors je regarde juste, vous êtes né... Ah oui, en 1981. Donc, oui. Il y avait encore quelques vinyles, puis on passait au CD. Mais peut-être que votre père avait des vinyles dans sa discothèque.
On avait des vinyles, oui. Moi, j'ai vécu le passage au CD, en fait, vraiment, parce que ça a commencé dans les années 80, en fait. Et ça a peut-être commencé avant, je sais plus exactement, mais à mon avis, c'est début des années 80. Et ça, disons que moi, quand j'étais enfant, je me souviens du moment où on appelait ça les disques laser. et où c'était vraiment, on découvrait ça, et les gens refaisaient un peu leur discothèque, etc. Et moi, quand j'ai commencé à faire du piano, j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens, on allait chez le disquaire, et c'était très excitant, quoi. On achetait des CD.
C'était le nouveau support, en fait.
C'était le nouveau support, et voilà, et on trouvait ça fantastique, on avait l'impression que c'était 10 fois mieux, etc. Ce qui est pas forcément le cas. J'ai un peu révisé ma position par rapport à ça aujourd'hui, mais c'était très pratique, évidemment, tout petit. Et puis l'attrait de la nouveauté, voilà, les premiers enregistrements que j'ai écoutés, c'était beaucoup grâce au CD et aussi grâce à la radio en France, notamment à France Musique à l'époque, où j'écoutais énormément de choses. Mais effectivement, grâce à mon père, j'ai pu être en contact tout de suite. Il avait un peu une connaissance des grands pianistes et tout ça, donc j'écoutais des albums de Rubinstein, de Horowitz, etc. quand j'étais enfant.
Vous vous souvenez d'un album en particulier ou d'une œuvre peut-être jouée par l'un de ces pianistes?
Il y en a beaucoup, mais c'est le tout premier CD qu'en fait j'ai demandé quand j'étais enfant, et j'avais même pas commencé le piano en fait, parce que j'avais été frappé. Alors c'est pas très original, hein, mais c'était la sonate au clair de lune de Beethoven, parce que mon père savait un tout petit peu jouer le début. Alors je l'avais beaucoup questionné sur ça, et je lui avais demandé de m'acheter une version. Et il avait choisi, je trouve très judicieusement, un enregistrement pour moi de Wilhelm Backhaus, qui comprenait les trois sonates les plus connues, c'est-à-dire la Passionata, la Pathétique et la Sonate au clair de lune. Et puis quand j'ai commencé le piano, j'ai eu une sorte d'obsession pour Beethoven, du coup. Du coup, j'ai voulu écouter les autres sonates. J'étais évidemment pas capable de les jouer, mais donc mon père m'avait acheté dans la suite, le coffret comprenant l'intégrale des 32 sonates toujours par Backhaus. Et mon oncle, qui lui était un peu musicien, m'avait offert à Noël, j'avais peut-être 4 mois de piano, un volume de l'intégrale des sonates de Beethoven. Et il m'avait dit la chose suivante, qui paraissait complètement hallucinante pour un gamin débutant. Il m'a dit, si tu arrives à en jouer une, je t'offre l'autre volume. C'était un petit défi comme ça.
C'est magnifique.
Et en fait, j'ai regardé, il y en a quand même deux des sonates, la 19e et la 20e, qui sont un peu des sonates, je dirais pas pour enfants, mais un petit peu. Il y en a une qui est en deux mouvements, notamment en sol majeur, qui est une sonate un peu enfantine, en fait, qui, on se demande
on
même un
dans
peu.
Dans les cahiers, d'ailleurs, pour les apprentis pianistes.
Voilà, exactement. Ouais. C'est les deux seules qui sont à peu près praticables à petit niveau. Ouais. Et bon, mais je me suis accroché. J'ai appris la sonate. Je l'ai pas jouée très très bien, mais je me suis débrouillé. Et de toute façon, je pense qu'ils m'ont offert ce deuxième volume quand même, mais il m'avait lancé ce petit défi. Je l'avais relevé. Et donc, ça a été mon bréviaire, si je puis dire, les 32 sonates de Beethoven quand j'étais petit. Quand je commençais le piano, j'essayais de toutes les déchiffrer, même en n'ayant pas le niveau. Mm-hmm. Voilà, ça a été quelque chose de très marquant, qui était lié à ma famille, qui m'ont embarqué comme ça dans la musique. Et puis après, j'ai vécu des expériences un peu similaires, des obsessions autour de compositeurs comme ça, avec Ravel, puis Messiaen, enfin, en découvrant des partitions comme ça, et en essayant de, tant bien que mal, jouer ces pièces. Et ça m'a vraiment tiré vers le haut, parce que j'avais en fait un amour vraiment pour ces musiques. Et quand je travaillais, j'avais le projet de pouvoir jouer ces pièces-là vraiment. Et donc, comme c'était des pièces très difficiles, il a fallu que je travaille beaucoup.
Mais c'est magnifique de commencer par Beethoven, parce qu'il y a tout dans ces 32 sonates. Enfin, il y a tellement de climats différents.
Ah oui,
Le tempo pour le premier mouvement de la Claire de Lune par Backhaus, c'est plutôt lent.
J'ai dans mon souvenir, d'ailleurs, il faudrait que je réécoute. Je pense que c'est des très bonnes versions, honnêtement, hein, Backhaus. Ouais. Il faudrait que je réécoute, parce que c'est souvent comme ça. Quand on a quelque chose qu'on a énormément écouté petit, finalement, il y a une phase où on a besoin de passer un peu à autre chose. Donc finalement, ça fait longtemps que j'ai pas tellement réécouté Backhaus. J'avais réécouté récemment, je m'étais dit, oui, c'est vraiment très bien. Est-ce que j'avais idéalisé ça dans ma jeunesse ou pas? Mais c'était un très grand pianiste, évidemment. Oui, le tempo du premier mouvement, c'est un grand sujet. Moi, je l'ai pas. Moi, personnellement, je joue plutôt très vite. Parce que c'est écrit comme ça, selon moi. Et je pense qu'il y a.
C'est à la brève.
Oui, c'est à la brève. C'est à deux, et c'est censé être à lent.
C'est ça.
Et je pense que c'est pas vraiment une marche funèbre. Je pense que c'est un lead, personnellement. Mm-hmm.
Le début de cette fameuse sonate Claire de Lune de Beethoven, interprétée ici par Wilhelm Backhaus. Un mouvement qui pose beaucoup de questions pour le tempo. Quel tempo choisir? Et puis ici, un enregistrement historique qui a baigné l'enfance de Bertrand Chamaillou. Naissance à Toulouse, donc, en 1981. Découverte des sonates de Beethoven, et puis aussi les professeurs, les premiers professeurs qui ont guidé le jeune pianiste, et puis aussi l'apprentissage des mouvements, des gestes au piano.
Oui, j'ai commencé avec une professeure de quartier, mais ça a duré très peu de temps. Et puis, comme j'allais très vite, je me suis inscrit au conservatoire, enfin on m'a inscrit au conservatoire. Et là j'ai eu une professeure extraordinaire qui s'appelait Claudine Villotte, qui était une dame d'un certain âge, qui avait été élève elle-même de très grands maîtres du passé, notamment d'un pianiste français qui s'appelait Lazare Lévy, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un grand maître de son époque, qui a très peu enregistré.
Et... paraît-il assez fabuleux.
Oui, absolument. Enfin, les quelques témoignages qu'on a, et puis tous les gens qui l'ont côtoyé, surtout. Et puis surtout, c'était l'ouverture de cette dame, parce que elle a compris, moi, dans mon cas, que j'avais à faire une sorte de trublion, parce que j'apprenais comme ça des sonates de Beethoven. Par contre, j'étais pas très discipliné quand il s'agissait de faire les exercices ou les gammes qu'on me donnait pour mon niveau, parce que ça m'ennuyait un peu. Mais elle a vu que j'étais talentueux, tout ça, et puis elle a épousé beaucoup ça en faisant découvrir beaucoup de musique, et puis pas seulement du piano. On allait beaucoup au-delà de ça, quoi. Et puis aussi, je composais à l'époque. Enfin bon, elle a vraiment suivi tout ça. Elle m'a aidé à m'épanouir là-dedans. Et puis, dans la classe, elle nous faisait des auditions extraordinaires autour de thématiques. On faisait deux auditions par an. Et à chaque fois, il y avait une thématique. Alors, une autour de Mozart, une autour de Brahms, etc. Mais il fallait qu'on écrive nous-mêmes les livrets pour le public. Il fallait qu'on aille chercher des copains dans les classes de clarinette ou de violon, etc. pour faire. Et on concevait des programmes qui étaient très très bien faits, qui duraient 2-3 heures en général. Et puis, c'est allé très loin, parce que même à 11 ans, on a fait un programme avec les enfants autour de la deuxième école de Vienne. Et moi, j'ai joué, j'ai encore une vidéo de mon enfance, ma première vidéo d'enfant, où à 11 ans, je joue la sonate de Berg à l'audition de classe. Et puis, il y en avait qui jouaient les pièces pour... de Webern, piano-violoncelle, enfin des trucs comme ça. Schoenberg, enfin bon, bref, on avait fait... Donc ça allait très loin, on allait vraiment dans plein de contrées différentes. Et j'ai découvert en fait tellement de musique grâce à elle. Et je lui dois beaucoup de choses, parce que je me rends compte aujourd'hui que l'enfance est tellement constructif, le monde de l'enfance, dans les goûts, dans l'appétence qu'on a. Et j'ai découvert tellement de musique différente qu'aujourd'hui, tout le répertoire que je joue, qui est assez large, il vient beaucoup je peux travailler avec cette matière, en fait. Parce qu'on dit souvent, il y a des écrivains qui me disent, on a tous ces thèmes avant 20 ans, ou je sais pas, on raconte ce genre de trucs. Mais il est vrai que les choses qu'on a connues et qu'on a aimées, l'univers qu'on a développé à ces âges-là, il y a quelque chose dans lequel on a un rapport beaucoup plus naturel à ces choses-là, que les choses qu'on découvre beaucoup plus tard. Et donc c'est vrai que tous ces compositeurs, alors il y a eu une grande période aussi, ça a été, parce qu'elle c'était un peu son monde aussi, c'était la génération d'avant elle, c'était tous les grands compositeurs qui avaient vécu à Paris au moment des ballets russes, évidemment autour de Ravel et Debussy, mais aussi Dukas, Roussel, etc. Et puis tous les étrangers qui venaient, comme Stravinsky, Prokofiev, mais aussi Albéniz, Defaya, etc. Donc ça c'était vraiment l'univers dans lequel on baignait énormément. Et puis après, moi, j'ai eu une appétence particulière pour la musique contemporaine très tôt aussi. D'abord par la découverte de la musique d'Olivier Messiaen, qui était encore en vie à l'époque, et puis de ses élèves après, de Boulez, de Stockhausen, tout ça. Et donc j'ai très jeune, et donc finalement, je me suis construit un univers, je pense très tôt, comme ça, au contact de cette dame, des concerts que j'allais voir. J'avais la chance à Toulouse d'avoir il y avait beaucoup de concerts extraordinaires avec des très grands artistes qui venaient. Donc, mes parents m'amenaient beaucoup aux concerts. Et puis après, il y a eu le Conservatoire de Paris. J'ai eu une autre personnalité qui a été importante pour moi, qui a été Jean-François Esser, qui est un grand pianiste français. Il m'avait repéré un peu plus tôt et qui a souhaité me faire travailler. Et lui, c'est vrai que c'est quelqu'un, notamment aussi dans mes goûts pour, l'envie de faire de la musique de chambre, de la musique contemporaine, etc. C'était quelqu'un qui était très comme ça, très couteau suisse, si je puis dire. parce qu'il y avait cette variété, ce côté 360, cette ouverture, un peu touche-à-tout. Voilà. Et en même temps, ça a été une phase où on arrive à Paris, ben je me suis rendu compte que j'étais plus le seul enfant doué, on va dire, quand j'avais 16 ans, là, on était plusieurs personnes douées, arrivées au conservatoire supérieur, et que là, il fallait commencer à travailler un peu plus rigoureusement. Et c'est quelqu'un qui m'a inculqué vraiment la rigueur. Et ensuite, j'ai été travailler avec celle qui a été son propre professeur. Lui-même, alors, avait travaillé avec Vlado Perlmutter, qui était lui-même un élève de Ravel, donc il y avait aussi une descendance. On a travaillé sur des partitions qui étaient annotées par Ravel directement. Hein.
C'est vrai.
Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des choses comme ça.
Une musique très mélancolique et enjôleuse, un extrait des Oiseaux tristes de Ravel par le pianiste Vlado Perlmutter, un interprète légendaire pour cette musique. Perlmutter qui a côtoyé Ravel et qui a reçu directement les recommandations du compositeur. Bertrand Chamaillou parlait de son professeur Jean-François Esser, avec lequel il a étudié dès l'âge de 15 ans au Conservatoire de Paris. Il y a un autre pédagogue, ou plutôt une autre pédagogue, qui l'a beaucoup marqué, Maria Curcio, chez qui il a étudié pendant 5 ans. Maria Curcio, une pianiste née à Naples en 1920, d'un père italien et d'une mère brésilienne, décédée à Porto, au Portugal, en 2009. Elle a eu pas mal d'élèves comme Jean-François Esser. C'est précisément lui qui a provoqué le lien entre Bertrand Chamaillou et Maria Curcio, dépositaire de l'école d'Arthur Schnabel.
Et ensuite, il m'a proposé de travailler avec une autre de ses professeurs, qui était Maria Curcio à Londres, une très grande professeure, qui elle-même avait été élève puis assistante quand elle était jeune d'Arthur Schnabel. Donc j'ai été quand même très en lien avec une génération déjà de notre temps. J'avais d'abord eu ce développement, je dirais presque cette perméabilité à la musique. J'ai eu ensuite appris une forme de rigueur, de discipline. Et je pense que c'est la personne qui m'a aidé à me libérer comme musicien, à sortir du côté académique, changer de tout ce que j'ai bien appris. Et qui, à un moment donné, a vu en moi, je pense, un certain potentiel pour la scène, voilà, que je ne voyais pas moi-même. Hein, je m'imaginais. Alors c'est pour ça que j'ai fait tellement de choses, de la musique de chambre. Et je ne le regrette pas, je continue à avoir cette diversité. Mais pour moi, c'était faire un maximum de choses parce que je n'imaginais pas faire une carrière de soliste. Et donc, je voulais élargir mes horizons le plus possible, accompagner des chanteurs. Enfin, je faisais beaucoup de créations, je touchais aux instruments anciens. Enfin, voilà. Et.
Des clavecins, des pianofortés.
Surtout des pianofortés, oui. Ouais. Le clavecin, j'en ai fait comme ça, mais le pianoforté, je l'ai fait sérieusement. J'ai fait un cursus, enfin voilà. Non seulement je regrette pas, mais je m'en sers aujourd'hui. Toute cette diversité, elle existe toujours dans ma carrière. Mais c'est vrai que c'est elle qui a vu en moi et qui m'a encouragé à exploiter cette dimension plus stylistique et à s'ouvrir, quoi. Parce que j'étais encore un peu timide. Et je pense qu'elle m'a aidé à me propulser, si je puis dire, quoi. À libérer quelque chose de beaucoup plus, même une forme d'instinct, que j'avais, mais qui était peut-être contenue.
Thank you.
Bertrand Chamaillou, dans cette pièce puissamment virtuose de Liszt, une pièce extraordinaire, Orage, tiré de la première année de pèlerinage en Suisse. On y trouve des cascades d'octaves, des accords massifs, et en fait c'est presque une étude pour piano avec un caractère descriptif typique de la musique du 19e siècle. Liszt, l'un des compositeurs de prédilection de Bertrand Chamaillou. Mais on pourrait encore citer beaucoup de compositeurs français, des maîtres comme César Franck, auquel le pianiste toulousain a consacré tout un album. On y trouve des pièces pour piano solo, comme le prélude choral et fugue que jouait le légendaire Alfred Cortot, ou encore des poèmes symphoniques assez rares comme les djinns. Alors les djinns, c'est une œuvre pour piano et orchestre, inspirée du poème du même nom, tiré des Orientales de Victor Hugo. Vous entendrez une introduction orchestrale, et puis assez vite, le piano s'impose dans une écriture nerveuse et dramatique. Bertrand Chamaillou est accompagné ici par le chef français Stéphane Deneuve et l'Orchestre National Royal d'Écosse.
Thank you.
Une fin en douceur et apaisée pour cette musique de César Franck, le poème symphonique Les Djinns par Bertrand Chamaillou au piano, Stéphane Deneuve et l'Orchestre National Royal d'Écosse. C'est tiré d'un très bel album César Franck, un album enregistré en partie à Grenoble et pour l'autre partie à Glasgow, ici en décembre 2009. On arrive au bout de cette première émission consacrée à Bertrand Chamaillou, un pianiste toulousain qu'on va écouter maintenant dans une œuvre de jeunesse de Claude Debussy. C'est de la musique de chambre, son trio en sol majeur, interprété avec Renaud Capuçon au violon et Edgar Moreau au violoncelle. enregistrement du trio avec piano en sol majeur, un enregistrement de l'année 2017 avec Bertrand Chamaillou au piano, Renaud Capuçon au violon et Edgar Moreau au violoncelle. C'était un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. Demain, on va reprendre le parcours de Bertrand Chamaillou qui nous parlera de ses premiers succès à la scène, mais aussi de problèmes neurologiques qu'il a rencontrés et qu'il est parvenu à surmonter à force de patience et d'endurance. Je remercie Jean-Philippe Zwahlen à la réalisation et je vous donne rendez-vous donc à demain pour le deuxième volet de cette série consacrée au pianiste toulousain Bertrand Chamaillou. RTS Espace 2, il est 23h. Tout de suite, le bulletin d'information suivi de Zone Bleue.